Bon, bien pour la deuxième partie de l'exposé, je repasse la parole à Jean-Michel Fontan.
Ce qui caractérise toute l'économie depuis plus de trois décennies, c'est la très grande faiblesse des investissements productifs et le vieillissement de l'appareil industriel, en particulier dans la chimie et le pétrole. Mis à part la fabrication de produits récemment inventés et commercialisés, les industriels usent jusqu'à la corde leurs installations. C'est particulièrement vrai dans le secteur pétrolier. Aux États-Unis ou en Europe, aucune raffinerie n'a été construite depuis 1980. Certaines ont plus de 75 ans, comme celle, propriété de BP, qui a explosé au Texas en 2005 et qui n'était quasiment plus entretenue. Les ministres des Finances des 20 pays les plus riches chiffraient ce sous-investissement à plus de 2 500 milliards de dollars. Dans le delta du Niger, qui compte 606 champs pétrolifères, les fuites massives dans les installations sont récurrentes. Parmi les centaines d'oléoducs vieux de 40 ans et rongés par la rouille qui ont envahi le delta du Niger, il y en a un qui a déversé du brut pendant des mois. Forêts et terres agricoles ont alors été polluées. Un chef de village a raconté au journal Le Monde, je cite, « Nous avons tout perdu, filets, cabanes, casiers de pêche. C'est ici que nous pêchions et travaillions la terre. Nous avons perdu notre forêt. Nous avons prévenu Shell dès les premiers jours de la fuite, mais la compagnie n'a rien fait pendant des mois. » Fin de citation. Il y a en moyenne 300 marées noires par an dans le delta du Niger. La pollution a atteint un niveau effrayant et le nombre de cancers dans la population est en augmentation vertigineuse. Et toujours dans ce même delta, c'est tout récemment Total qui a été mis en cause par de nombreux habitants à cause des torchages. C'est une pratique qui consiste à laisser brûler les gaz qui s'échappent d'un puits d'exploitation de pétrole. Cela provoque des fumées épaisses et une pollution atmosphérique permanente. Le Nigeria a interdit cette pratique en 1984, mais Total continue et se moque des nombreuses plaintes à ce sujet. Ils ont l'argent pour corrompre qui il faut et une armée d'avocats. Alors, faudrait-il croire ces socialistes de gouvernement et ces écolos qui font mine de se préoccuper de la planète, mais qui au pouvoir ne font rien contre les intérêts de Total ? Pour récupérer tout ce gaz perdu dans les torchages, qui d'après la Banque mondiale suffirait à subvenir aux besoins de toute l'Afrique subsaharienne, il faudrait investir dans les infrastructures. Des investissements lourds, mais les compagnies raisonnent en fonction de leurs bénéfices à court terme et aux dividendes à verser aux actionnaires. Les intérêts des populations et de la planète, ils s'en fichent. Les trusts pétroliers finiront bien par construire de nouvelles raffineries lorsque les anciennes seront trop usées pour produire quoi que ce soit, du moins pardon, excusez-moi, tant que le pétrole ne sera pas remplacé par d'autres sources d'énergie. À ce moment-là, leurs nouvelles installations intégreront des normes plus sévères en matière de pollution et d'émissions de gaz carbonique. Mais ils ne le feront que lorsqu'ils auront engrangé par avance les capitaux nécessaires à cela. Les consommateurs et la collectivité paieront ainsi deux fois. Une première fois avec leur porte-monnaie et une seconde fois à cause du retard, peut-être dramatique, pris dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les grandes compagnies ne négligent pas ces énergies renouvelables, mais elles ne sont aujourd'hui pas suffisamment rentables du point de vue du marché capitaliste. 25 grandes compagnies se partagent le marché mondial de la distribution de l'énergie, du pétrole à l'électricité en passant par le gaz. Ces trusts du secteur énergétique font des profits qui battent des records chaque année. Mais ils demanderont au gouvernement de financer à leur place la recherche et le développement dans les énergies futures. Le secteur de la production d'énergie étant le plus gros émetteur de gaz à effet de serre au niveau mondial, le problème d'une alternative aux énergies fossiles est posé depuis un certain temps par les scientifiques. Les pays montrés du doigt comme étant les principaux émetteurs de gaz à effet de serre sont les États-Unis et la Chine. L'essentiel de leur électricité est produite en brûlant du charbon ou du gaz naturel. La France, elle, apparaît comme un bon élève, La majeure partie de son électricité provient des centrales nucléaires qui ne rejettent pas de CO2, mais uniquement de la vapeur d'eau. Il y a cependant un autre problème et de taille, qui est celui des déchets nucléaires, que l'on ne sait pas à l'heure actuelle traiter sans risques environnementaux majeurs. À l'échelle du monde, l'énergie produite provient à 80% d'énergie fossile et à environ 6% pour l'énergie nucléaire. La part des énergies renouvelables, solaire, hydraulique, éolien, demeurant très faible, de l'ordre de 3%. Le reste, environ 10%, provenant des biocarburants et de l'incinération des déchets. Même s'il paraît difficile d'imaginer aujourd'hui comment l'humanité fera pour se passer d'énergie fossile, signalons quand même que certains pays comme l'Autriche ou les pays scandinaves ont une part d'énergie renouvelable dans leur consommation brute d'électricité supérieure à 65%. Pour la Norvège, c'est même 98%. La Suède a réduit de moitié sa consommation de pétrole en moins de 40 ans et envisage d'éliminer totalement l'énergie fossile des transports routiers d'ici 2030. À Lyon, un écoquartier à énergie positive vient d'être mis en chantier, c'est-à-dire que les habitations produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment pour les besoins des occupants. Dans les pays nordiques, de nombreux quartiers de ce genre existent déjà. Mais à moins de faire de la science-fiction, on ne peut imaginer tous les progrès scientifiques et techniques dont l'humanité sera capable, nous n'en doutons pas, dans l'avenir. La question énergétique trouvera une solution scientifique satisfaisante, mais le problème qui se pose aujourd'hui avec le réchauffement climatique n'est pas d'abord un problème scientifique, c'est un problème social. Le capitalisme est un système anarchique qui ne fonctionne qu'avec le moteur du profit privé. Si les capitalistes peuvent faire du profit, peu leur importe les conséquences pour la planète. S'il faut dévaster une région pour en tirer telle ou telle matière première, la bourgeoisie n'hésite pas une seconde. Pour extraire du gaz de schiste, des sables bitumineux, ils se moquent des dégâts faits à la nature. Si par contre les énergies renouvelables, à force d'investissements publics et de raquettes des consommateurs, deviennent juteux, les capitalistes y investiront massivement. Ce que nous ne pouvons admettre, c'est le discours moralisateur qui vise à faire accepter aux consommateurs de payer plus cher pour que les capitalistes étirent leurs profits. Par exemple, un rapport publié en janvier 2006 par Nicolas Stern, ancien économiste en chef de la Banque mondiale et conseiller de Tony Blair, préconisait que les États financent les investissements et l'essentiel des frais de recherche que les capitalistes rechignent à faire. Les gouvernements n'ont pas attendu ces rapports pour déverser l'argent des contribuables. C'est ainsi que les branches Total Energy, Shell Solaire ou encore Tiru, filiale d'EDF, se sont vues octroyer de fortes subventions du Parlement européen depuis longtemps. Il y a eu le programme Énergie intelligente pour l'Europe entre 2003 et 2006, puis le plan d'action pour l'efficacité énergétique entre 2007 et 2012, et enfin le programme, attention, énergie sûre, propre et efficace, de 2012 à 2020. Les subventions au secteur de l'énergie, y compris fossile, à l'intérieur de l'Union européenne, dépassent les 100 milliards d'euros par an. Il en est de même dans l'industrie automobile, où moins de 10 grands groupes se partagent le marché mondial. Après avoir pollué l'atmosphère avec le plomb et autres additifs dans l'essence, après avoir imposé à toute la planète le tout routier et sa pollution atmosphérique majeure, ces grands groupes profitent des subventions des États pour financer la recherche sur des moteurs électriques ou hybrides, ou pour améliorer la qualité des carburants et les rendre moins polluants. Et le tout récent scandale Volkswagen montre ce que valent les préoccupations écologistes des industriels. C'est de l'enfumage. Il ne s'agissait même pas de fabriquer des voitures propres, mais de vendre des voitures que l'on prétend propres en trichant avec les contrôles. Vous avez tous suivi. L'écologie est devenue un argument commercial, un argument de vente bien intégré dans l'économie capitaliste d'aujourd'hui. Pour apparaître comme un mécène très écolo et séduire l'acheteur américain, Volkswagen avait même financé en 2013 une exposition dite « eco-friendly » au Musée d'art moderne de New York. En réalité, l'écologie est aussi une arme dans la guerre économique que les firmes et les États se livrent. Il est significatif de voir l'empressement du gouvernement allemand à défendre Volkswagen. Et on peut se demander si les États-Unis auraient pris les mêmes mesures de rétorsion face à la fraude s'il s'était agi de Ford ou de General Motors. Une autre idée majeure des campagnes actuelles, c'est qu'il faut que le prix de l'énergie augmente pour prendre en compte ses effets sur le climat et inciter les gens à être écologiquement responsables. Ils appellent ça le prix du carbone. Autrement dit, il faut que les consommateurs payent un prix plus élevé pour les énergies fossiles afin de rendre plus profitables les investissements dans les énergies renouvelables. Ainsi, les dirigeants de Shell, Total, Statoil, BP et Eni viennent d'adresser un courrier à Fabius, qui va présider la conférence de Paris, réclamant un engagement de l'État sur les prix pour, comme ils disent, sécuriser leurs investissements dans les énergies alternatives. Mais c'est d'un cynisme sans nom, car les riches continueront, quel que soit le prix, à utiliser leurs jets privés, à rouler dans leurs grosses voitures de luxe et à mettre des clims partout, pendant que les pauvres n'arriveront plus à se chauffer correctement. Les riches ne modifieront pas leur train de vie ou leur consommation d'énergie à cause du prix, mais les travailleurs auront de plus en plus de mal à payer leur voiture et à se déplacer. Un autre leitmotiv des campagnes sur les menaces du réchauffement climatique, c'est que l'avenir de la planète est entre les mains de chacun d'entre nous. S'il est vrai que toute l'humanité est directement concernée par l'avenir écologique de la planète, et que la population devrait être informée et en mesure de prendre les décisions qui engagent son avenir, ces campagnes qui renvoient dos à dos les particuliers et les industriels ou les actionnaires reviennent à exonérer les responsabilités des capitalistes et à masquer le fait que le problème est dans le fonctionnement même du système. Les consommateurs n'ont aujourd'hui aucune prise sur les choix et les orientations de la production industrielle, entièrement entre les mains des propriétaires privés. Ils sont entièrement dépendants de ceux qui leur fournissent l'énergie, des prix qui leur sont imposés, des technologies qu'ils trouvent sur le marché. La population n'a pas plus de choix en matière de déplacement et de transport. C'est pourtant le secteur dans lequel les particuliers sont le plus accusés d'individualisme en refusant d'abandonner leur voiture particulière. Demander aux particuliers de ne pas prendre leur voiture sans construire et entretenir des réseaux collectifs pratiques, fréquents et confortables, est une imposture. Comme c'est une imposture de leur demander de faire leurs courses à pied, près de leur domicile, quand les géants de la distribution ont concentré en périphérie de la plupart des villes les magasins les mieux achalandés et ceux dont les prix sont les plus abordables. Rappelons enfin que les premiers à utiliser massivement le transport routier sont les entreprises qui se font livrer à leur porte leur fourniture par des norias de camions. Toute cette organisation des transports, le gâchis humain, énergétique et écologique qu'elle entraîne, n'est évidemment pas de la responsabilité individuelle des particuliers. L'hypocrisie de certains écologistes n'a, à cet égard, pas de limite. Certains ont créé des associations leur permettant de racheter leur pollution individuelle en gaz carbonique. Ils ont déterminé de façon passablement ridicule la quantité d'émissions de carbone que chaque habitant de la planète aurait le droit d'émettre chaque année pour être écologiquement responsable, la fameuse empreinte CO2. Ceux qui dépassent leur quota individuel peuvent faire un don pour financer une entreprise écologique. Tous ceux qui répètent que chaque consommateur tient l'avenir de la planète entre ses mains, que chacun peut faire un geste pour l'avenir de la planète, mentent. Ils ne font que dédouaner ceux qui s'enrichissent avec cette organisation économique et qui sont les seuls à la diriger. En réalité, il faudrait surtout mettre en place une autre organisation de la production et de la distribution. Sur les marchés de Pointe-à-Pitre, à la Guadeloupe, on vend des oranges provenant d'Afrique du Sud. Elles ont été transportées par cargo, parfois après avoir transité par le marché de Rungis, près de Paris, alors qu'on cultive des oranges en Amérique centrale et en Floride. C'est une absurdité. La principale source de rejet de gaz à effet de serre, c'est l'organisation même de la production, de la distribution et de la consommation, avec son gaspillage d'énergie et de ressources. La lutte permanente entre groupes concurrents pour gagner des marchés, l'absence complète de recensement et de prévision des besoins de la population provoque une pollution et un gaspillage plus profond encore. Elle provoque la multiplication absurde des déplacements intercontinentaux de marchandises, justifiés seulement pour des raisons commerciales. Chaque grande entreprise, chaque trust rationalise sa production, pourtant, et l'organigramme de ses différentes usines. Mais chacun le fait en interne et en concurrence avec tous les autres. Au fil des fusions et des rachats de sous-traitants dans l'industrie automobile, des pièces de moteurs ont pu venir du Brésil ou des États-Unis pour être assemblées en Europe sur des véhicules Renault ou Volkswagen, tandis que des pièces équivalentes traversaient l'océan Atlantique dans l'autre sens pour être montées sur des véhicules Ford ou General Motors. Cette multiplication inutile des transports a lieu aussi sur les routes. Par exemple, les Pays-Bas exportent 350 milliers de tonnes de viande de poulet par an vers l'Allemagne, tandis que l'Allemagne en envoie 100 milliers de tonnes qui voyagent dans l'autre sens vers les Pays-Bas. Les grands groupes de distribution et les grandes entreprises de production ont imposé la généralisation du transport routier des marchandises. Pour supprimer leurs stocks et les mettre directement sur les routes, elles ont inventé le flux tendu et maintenant le flux tiré. La production se fait à la commande, avec zéro stock, ce qui a l'avantage pour les patrons de libérer du capital, car un stock, c'est pour eux du capital qui dort. Mais les stocks, au lieu de se trouver dans les sites de production, se trouvent sur les routes. Or, le transport routier de marchandises contribue à l'effet de serre par les émissions de gaz carbonique, mais aussi pollue par celles de monoxyde de carbone ou d'azote, d'aérosols et d'additifs divers dangereux pour la santé publique. Cette politique du tout routier a été possible, d'une part, par la baisse importante des coûts qui s'est d'abord faite sur le dos des chauffeurs de poids lourds. Elle a aussi été possible parce que les collectivités ont pris en charge une part importante des investissements pour construire les infrastructures routières sans que ces coûts soient répercutés sur le prix du transport de marchandises. Ce sont les norias de poids lourds qui défoncent les routes, mais le contribuable qui paye leur entretien. Il est d'ailleurs significatif que ce soit l'État qui a réalisé l'essentiel des investissements routiers, mais aussi ferroviaires et aéroportuaires, alors que les profits vont au privé. Le démantèlement progressif de la SNCF, la privatisation des autoroutes et récemment des aéroports, comme ceux de Toulouse, de Nice ou de Lyon, de même que le prix du gazole au rabais pour les camions, montrent clairement pour qui roule l'État. Dans l'Union européenne, le transport par route représente 85% des déplacements de voyageurs et 73% du fret terrestre. En France, à force de fermeture de lignes, le réseau SNCF est aujourd'hui revenu à sa longueur des années 1890. Le fret par rail a chuté de 10% de 1995 à 2005. Et le gouvernement envisage la suppression prochaine de nombreuses lignes de trains intercités sous prétexte de rentabilité insuffisante, alors que parallèlement, il vient d'ouvrir les mêmes lignes ou d'autres aux autobus privés. Et même la SNCF, ne voulant pas être en reste dans cette curée, ouvre des lignes avec sa compagnie Ouibus. Le ministre de l'économie Macron se vante de ce que ces lignes de bus permettraient de créer entre 10 000 et 16 000 emplois d'ici 2020. Mais ce n'est rien comparé à tous les emplois que la SNCF a supprimés ces dernières années. Et surtout, vanter le transport par bus au moment même où va se tenir la conférence de Paris sur le réchauffement climatique, c'est vraiment se moquer du monde. Il n'en honte de rien. Il ne s'agit pas pour autant, contrairement à ce que réclament certains écologistes, de supprimer tous les échanges de marchandises et de relocaliser progressivement toute la production économique. La Division internationale du travail a représenté un progrès fondamental en améliorant considérablement la productivité humaine et en unifiant les continents. La suppression des échanges de matières premières comme de produits manufacturés Le retour à des économies locales fonctionnant en vase clos sont aussi utopiques que réactionnaires. Ce qui est en cause, c'est que cette division internationale du travail agit dans le cadre du capitalisme, avec la multiplication des déplacements absurdes de marchandises et l'absence complète de rationalisation des transports. Ce n'est pas la division internationale du travail qu'il faut mettre en cause, mais la concurrence. Les industriels, comme les grandes sociétés de transport, disposent pourtant en interne de moyens de rationalisation et de planification. Les camions des grandes sociétés sont équipés de positionnement par satellite qui permettent de suivre en temps réel chaque camion depuis un centre de routage pour minimiser les déplacements et les frais. Les plannings de livraison sont gérés par des moyens informatiques. C'est aussi le cas de la compagnie maritime CMA-CGM qui suit le périple à travers la planète de 101 500 000 conteneurs, porte-conteneurs, à partir de son siège marseillais. Non, c'est conteneurs. Ainsi, il serait aujourd'hui possible de réduire les déplacements de camions et donc le gaspillage à l'échelle du continent européen tout en conservant la plus grande souplesse. Cela suppose de supprimer la concurrence entre les transporteurs et de mettre en commun leur système de gestion des déplacements de leurs véhicules, mais aussi de supprimer la concurrence entre les commanditaires. Tant que régneront la concurrence et l'anarchie du marché capitaliste, des files ininterrompues de poids lourds continueront à traverser l'Europe sur les mêmes axes en se croisant et ils continueront à polluer l'atmosphère. Malgré ces nombreuses incertitudes scientifiques, et même si la Terre a connu au cours de son histoire bien des variations climatiques parfois très importantes, le réchauffement climatique actuel représente une menace sérieuse pour l'humanité. L'irresponsabilité générale de toute l'organisation économique et sociale actuelle ne peut pas permettre à l'humanité d'y faire face consciemment et sans drame. Au nom des générations futures, certains courants écologistes voudraient que les générations actuelles limitent fortement leur consommation, leurs déplacements motorisés, leur accès au progrès technologique. Ils affirment que si tous les habitants de la Terre accédaient à un développement économique comparable à celui des pays riches, il faudrait plusieurs planètes pour y faire face. Ce n'est qu'une variante à peine moins réactionnaire des idées de Malthus, qui, au XVIIIe siècle, estimait qu'il y avait trop d'individus sur la Terre et que la sélection, par l'argent, devait faire son œuvre. À l'heure actuelle, les trois quarts de l'humanité n'ont qu'un accès réduit à l'eau potable, à un logement, à l'électricité, à l'éducation et à la culture, ou à des soins médicaux. Un être humain sur cinq n'y a pas accès du tout. Ceux qui dénoncent le productivisme sont des cyniques. Ils n'ont que faire de ces trois quarts de l'humanité qui manquent de tout. En réalité, leurs idées sont des idées de classe, des idées de la petite bourgeoisie des pays riches. Dans la mouvance écologiste, certains ont fait des équilibres naturels quelque chose de sacré, et d'autres, ou les mêmes, prônent la décroissance ou préfèrent dénoncer le productivisme plutôt que le capitalisme. Mais l'homme, depuis qu'il s'est affranchi progressivement de sa condition animale, n'a fait que modifier et transformer les équilibres naturels. Le feu est une conquête extraordinaire pour l'humanité, mais aussi un grand danger puisque l'on pouvait brûler toute la savane. Quand l'agriculture s'est étendue à toute l'Europe, elle a entraîné des déforestations de grande ampleur. Ce sont les pâturages intensifs des moutons et des chèvres domestiqués par les hommes qui ont accéléré l'érosion des sols, formant ainsi les paysages arides de la Grèce ou du Proche-Orient. C'est aussi l'agriculture qui a façonné les paysages dits naturels. Le maïs, les tomates, la pomme de terre ont été importés d'Amérique en Europe, tandis que le café du Brésil est venu d'Afrique. Les hommes ont sélectionné de nouvelles plantes, de nouvelles espèces animales qui ont permis le développement de l'humanité sans que les équilibres de la planète en soient jusqu'à présent menacés. Mais depuis la révolution industrielle, avec le développement sans précédent des capacités de production, avec l'augmentation importante de la population mondiale au cours du XXe siècle, l'empreinte des activités humaines sur la planète a changé d'échelle. Cette accélération présente de réels dangers. Mais ce qui est en cause, c'est l'irresponsabilité de l'économie capitaliste dont le moteur est la recherche du profit privé et qui se réalise à travers un marché aveugle. Avec la question du réchauffement climatique, on peut dire que la prédation du capitalisme sur la planète a fini par atteindre toute l'atmosphère. La cause première des dangers qui menacent aujourd'hui l'humanité n'est pas le changement climatique, mais le capitalisme. En réalité, l'humanité n'est pas démunie pour faire face au réchauffement et à la plupart des conséquences que les scientifiques laissent entrevoir. Il ne s'agit pas, bien sûr, de modifier la distance entre la Terre et le Soleil, ou l'axe d'inclinaison de la Terre, ni de provoquer un volcanisme artificiel. Les hommes ont su s'installer au cours de leur histoire sous toutes les latitudes, sous presque tous les climats, dans les déserts comme dans les régions polaires. Ils imagineront d'autres solutions au fur et à mesure des problèmes qu'ils auront à résoudre. Le réchauffement climatique, ses conséquences comme ses causes, est d'abord un problème social. S'il est certain que ce réchauffement pénalisera d'abord les populations les plus pauvres, c'est parce qu'elles sont déjà aujourd'hui reléguées dans les zones les plus ingrates ou les plus dangereuses, comme les deltas des grands fleuves. Un pays comme le Bangladesh, l'un des plus pauvres de la planète, est déjà régulièrement dévasté par des inondations qui, si elles ont des causes naturelles, n'en sont pas moins aggravées par le sous-développement, par la fragilité des habitations, par la déforestation massive des pentes en amont des fleuves qui baignent ce pays. Si 16% du Bangladesh devait être submergé à la suite d'une montée des eaux de 1 mètre, ce sera en effet l'apocalypse pour les pauvres, comme l'écrivent certains journalistes qui font peur à leurs lecteurs en parlant de réfugiés climatiques. Le développement scientifique et technique atteint par l'humanité devrait au contraire nous permettre d'anticiper sur les conséquences du réchauffement. Si les modèles confirment que les eaux des océans monteront de 1 mètre d'ici un siècle, on pourrait se donner dès maintenant les moyens d'y faire face. On pourrait aménager par avance de nouvelles villes pour reloger les habitants qui vivent aujourd'hui dans des zones inondables à proximité des côtes ou de grands fleuves. Il reste sur la planète bien des zones hospitalières peu habitées. Se préoccuper de l'état de la planète que nous léguerons à nos enfants et même du sort des ours polaires menacés par la fonte des banquises est légitime. Ce n'est pas le marché qui peut régler ces questions, car le marché ne s'intéresse qu'à ceux qui ont de l'argent, donc ni aux ours polaires, ni aux pauvres du Bangladesh. Les dirigeants du monde ne sont pas forcément aveugles et savent bien qu'il y a une certaine urgence à agir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Mais pour ce faire, il faudrait réglementer et contrôler bien plus l'économie, et cela, ils ne peuvent pas le faire. Car le capitalisme est une économie anarchique, fondée sur la concurrence et la propriété privée des moyens de production, ce qui la rend irresponsable. Les dirigeants de la bourgeoisie ont toujours eu les pires difficultés pour s'opposer aux intérêts privés des bourgeois individuels, même lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts à long terme de leur propre système. Et le sens dans lequel raisonnent ces dirigeants et les solutions qu'ils cherchent accroissent les inégalités. Par exemple, depuis juillet 2005, il faut payer 7 livres, ça fait environ 9,50 euros par jour, pour circuler en voiture dans la ville de Londres. Une société communiste cherchera à satisfaire l'ensemble des besoins de tous, ni plus ni moins. Ces besoins se renouvelleront et s'amélioreront sans cesse, mais pas à la manière du capitalisme qui crée des besoins artificiels d'un côté, pendant qu'il condamne à la sous-alimentation près d'un milliard d'individus de l'autre. C'est bien pour cela que la théorie de la décroissance est réactionnaire. Pour autant, le communisme ne défend pas le productivisme. Rationaliser la production n'est pas nécessairement la croître à l'infini. Il ne s'agit pas non plus de tout centraliser ni de produire toujours plus. L'échelle de la centralisation dépend de la nature du problème et doit aller de pair avec la démocratie la plus large. Pour ce qui est du climat, il est évident que le problème ne peut être résolu qu'à l'échelle mondiale. Mais seule une organisation, une économie rationnelle et planifiée à l'échelle du monde permettra à l'humanité d'organiser de manière scientifique et humaine son futur. Ce que pouvait dire Marx à son époque sur l'impossibilité d'organiser l'économie de manière rationnelle dans le cadre du capitalisme est encore plus vrai aujourd'hui. L'humanité dispose de possibilités de contrôle infiniment supérieures à ceux du siècle de Marx. Mais parallèlement, la concurrence et l'irresponsabilité n'ont fait que s'accroître. Le débat qui se déroule sur la question du réchauffement climatique en est l'illustration. C'est une question qui concerne d'emblée toute l'humanité. Mais ce à quoi nous assistons, c'est une arène supplémentaire de rivalité entre puissances, une arène où chaque pays défend d'abord les intérêts économiques égoïstes de ses propres multinationales. C'est pourtant un domaine où il est évident que la solution ne peut être que globale et où la loi du profit et les intérêts privés doivent être mis au pas. Le seul moyen de faire face au réchauffement climatique, soit en le réduisant, soit en trouvant les moyens d'y adapter la société et de se débarrasser de cette organisation économique absurde. Cela, nous en sommes convaincus, arrivera bien avant que le réchauffement de la planète soit vraiment nuisible à l'humanité et à la vie sur la Terre. C'est le seul moyen pour léguer aux générations futures un monde sans drames ni écologiques ni sociaux.